Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 78e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur Geekzone avec notre sélection de l'actu, gaming, app, culture, tech. On passe un peu en revue les trucs qui nous ont marqué cette semaine. Et quand je dis nous, c'est moi et mon ami Caféine. Salut Caféine.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Bah écoute, impeccable. Une machine de guerre, trop bien.
C'est
au taquet. Ouais, depuis que j'ai lu ce bouquin sur le yoga à 5h du mat, le jogging à 6. Tu sais, moi je suis au taquet, ça va beaucoup mieux dans ma vie maintenant. Et
Rendez-moi café.
Ah ouais, non, mais je suis pas du tout du genre à jouer à PEC jusqu'à 6 du mat et à ramper toute la journée après. Moi, c'est fini tout ça. C'est le mec qui stream le soir, je sais pas qui c'est.
Eh ben, écoute, c'est très bien. Du coup, on va parler d'Apex Legends.
Que je vois pas pourquoi tu me demandes. Moi, j'ai arrêté. Je comprends pas pourquoi les gens posent des questions sur Apex Legends.
On avait déjà fait une spéciale la semaine dernière ou quasiment. C'est notre nouveau PUBG en fait.
Hein. Ouais,
c'est
PUBG
Apex Legends News.
Faut que tu nous, voilà, un petit jingle. Ça va manquer. Magneto Serge.
C'est quoi le bilan après avoir passé des nuits dessus?
Écoute, on s'amuse toujours, c'est dramatique. On a embarqué plein de gens qui n'aimaient pas le Battle Royale, qui sont toujours là, incroyablement. Certains, un petit peu, comment dirais-je, en questionnement sur leur capacité à viser les gens. Mais bon, tout va bien se passer, hein, messieurs, dames, vous inquiétez pas. Tout le monde ne joue pas comme Shroud, surtout pas nous. D'ailleurs, je tiens à remercier Ravine qui nous a fait un fantastique cadeau avec une petite bannière que je vais mettre partout maintenant. Une bannière qui dit « on n'a pas le niveau, on n'a plus les réflexes, mais on s'adapte puisque c'est effectivement notre façon de faire pour gagner des games, puisque donc Apex, je rappelle, il faut effectivement être le dernier survivant dans ce petit monde du Battle Royale, et comme on n'a pas tous, comme j'essaye de le dire poliment, mais on vise pas très bien tout le temps, voilà.
C'est l'âge, ça.
Ou le stress, ou le... Bon, on est un peu mauvais, voilà. Et du coup, on est très très fort, tu sais, un peu comme les politiciens, on laisse les gens s'entre-déchirer entre eux, et puis après, on arrive et on ramasse les miettes.
Les spoils of war.
Ouais, les mecs sont en train de se raise, et ils essayent de se mettre des boucliers et tout, et nous, on arrive, on fait « Coucou, c'est nous !» Alors voilà, ça se passe mal quand on se retrouve au milieu des mecs, tu vois, là, ça, là c'est compliqué pour nous. Mais bon, bref, du coup, il y a du patch, il y a du contenu, il y a eu plein d'annonces, et on a appris plein de choses sur le jeu lui-même, puisque finalement il est sorti tellement par surprise qu'on n'avait pas trop d'informations. Donc le patch de cette semaine, la bonne nouvelle, c'est que ça corrige beaucoup beaucoup de bugs, mais il en reste parce que il y en avait quand même quelques-uns de cachés, mais ils ont viré les trucs les plus chiants, du style rester coincé dans la map ou passer à travers, ce n'est jamais pratique. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais apparemment il y avait des morceaux pas finis dans la carte. C'est un peu le problème de ce genre de jeu. Ils ont aussi corrigé un truc qui était assez rigolo, où j'avais fait une petite vidéo là-dessus, c'était marrant, où quand tu essayais de relever un collègue tombé dans le vaisseau, il y a des vaisseaux qui se baladent sur la carte et tu peux au début du jeu atterrir dessus pour choper des armes, etc. Mais quand tu te faisais défoncer et qu'un ami essayait de te raise, ben en fait toi tu restais à une place fixe, ce qui fait que le vaisseau partait sans toi et ton pote. Tu vois, l'animation était bloquée sur ton copain et toi en train de te faire raise, et le vaisseau, ben, il se barrait, il faisait salut, et donc du coup évidemment tout le monde se cassait la gueule dès que l'animation était terminée. C'était pas très pratique, et puis si les gens mouraient, leur death box, leur espèce de cercueil qui contient tout leur matériel que tu vas aller piller allègrement, bah c'est pareil, le truc dégageait, il ne restait pas forcément sur le vaisseau. Enfin, il y avait plein de petites conneries comme ça. Tout ça normalement est rentré dans l'ordre. C'est plutôt une excellente nouvelle. Les mecs bossent vite et bien pour l'instant. C'est vraiment cool. J'avoue qu'on se marre beaucoup. La bonne chose qu'ils ont rajouté, c'est qu'il y a comme un début de calendrier pour savoir quand est-ce qu'ils vont commencer à rajouter les différents season pass et tous les trucs qui vont vous faire dépenser de l'argent, hein, parce que c'est un free to play, n'oublions pas. Bon, je vais pas m'étendre parce que pour l'instant les dates ont pas forcément été entérinées, mais en gros à partir de mars ça va commencer à tomber. Le truc qui a été officialisé, c'est qu'ils ont l'intention de faire un vrai storytelling avec des histoires incroyables.
Ah ouais.
Une idée pas du tout piquée à Overwatch. Enfin voilà, si vous connaissez Overwatch, on va retrouver un peu le même genre de truc, faire donner du background aux différents personnages, les faire évoluer, les relier entre eux, les relier aux personnages qui vont arriver dans le jeu après, etc. Donc il y a tout un truc de prévu autour de ça. Et pour ceux qui se demandaient quand le développement avait commencé, bah on a eu la confirmation, ça a commencé quand même au printemps 2017. Donc c'est assez rapide. Enfin, ils l'ont pas fait en 3 mois comme prévu, hein, mais finalement, c'est, ça reste rapide. Ils ont quand même bien, bien bossé, les mecs. Donc, c'est plutôt cool. Et ils ont, ça y est, je vais commencer à dire des plutôt cool comme toi la semaine dernière. On n'est pas sorti, tiens. Et puis, pour ceux qui râlent sur l'absence de Titan, c'est qu'en fait, eh ben, ils avaient essayé de les rajouter, les robots géants, hein. Mais ça fracassait complètement le gameplay. Et que quand ils étaient équilibrés, bah, c'était juste chiant à jouer. Donc, ils ont fait, bon, maintenant, faut voir la vérité en face. On va les dégager. Donc, ça, c'est les trucs qui sont actés. L'autre truc qui est acté et qui va faire râler des gens, c'est qu'il y aura clairement, pour l'instant, enfin, en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour, le mode solo. Vous pouvez toujours crier, pleurer pour l'avoir, c'est pas prévu. Et à ça, les développeurs ont un truc assez malin à répondre en disant, bah ouais, les mecs, mais enfin bon, Rainbow Six, en solo, tu te feras chier aussi, donc c'est pas prévu comme ça, notre jeu, c'est des équipes de 3, et puis c'est tout. Si t'aimes pas ça, bah tu vas jouer à PUBG ou à Fortnite. Ça nous va aussi, parce que nous, sinon, on va casser notre jeu, et c'est pas le but. Ça va casser le système de classe, etc. Donc ce n'est pas possible. Donc pour le moment, en tout cas, ce n'est pas au programme. Après, les mecs sont pas complètement obtus et ils disent bien que s'ils trouvent une solution ou si vraiment demain il reste 2 joueurs, je pense qu'ils trouveront une solution. Mais pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Donc voilà. Donc ça évolue énormément et puis on va suivre ça d'un œil acéré. Et comme je le disais, je ne joue pas du tout tous les soirs, donc tout va bien.
Twitch.tv/caféine.
Non, pas du tout. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ce n'est pas moi. On m'a piqué mon compte.
Allez, on reste dans le gaming. On va parler de nos amis de chez Nintendo.
Incroyable. T'as un caf qui parle de Nintendo. Les mecs n'étaient pas prêts. Parce qu'en fait, ils ont fait un énorme Nintendo Direct hier avec quand même beaucoup d'annonces. Et ne pas en parler, ça serait quand même pas très gentil. Surtout que même si j'ai revendu ma Switch, j'avoue que ça me redémange régulièrement d'en reprendre une pour un ou deux jeux qui sont annoncés. Puis à force d'avoir un ou deux jeux que j'ignore royalement, ça commence à faire une sacrée ludothèque. Mmh. Et dans le Nintendo Direct d'hier, ils ont quand même balancé du lourd, sachant qu'il y a un truc qui est déjà dispo et qui est déjà en train de droguer certains amis que je ne citerai pas. Quix, si tu es dans le coin, coucou. Le Tetris 99, c'est quand même une idée géniale. Oui, ils ont ressorti Tetris, je sais. Un nouveau jeu.
Pourquoi changer nos recettes qui marchent, hein, finalement?
Voilà quoi. Sauf que cette fois, donc, c'est Tetris 99 et tu n'es pas prêt pour cette annonce si tu n'as pas suivi ça.
Non,
c'est que
je m'accroche.
C'était bien assis là, devant ton petit micro. Tetris 99, c'est un Battle Royale.
Alors vraiment, j'aurais pu imaginer plein de trucs débiles, mais j'aurais jamais pensé à un Battle Royale. Et Dieu sait, pourtant, c'est quand même pas mal dans l'actu en ce moment, quoi.
Avec Tetris, mec, c'est des génies ou pas? Alors comment ça marche?
Voilà.
Évidemment, la question qui vient derrière, c'est très très con en fait. C'est que c'est un mode online qui marche sur Switch grâce au fabuleux service online de Nintendo qui adore Internet et qui gère très bien Internet, comme tout le monde le sait.
Sarcasme.
Qui est donc permet de connecter 99 personnes entre elles pour jouer à Tetris en mode battle, et à la fin il doit n'en rester qu'un. Les mecs sont ultra malins, donc c'est effectivement le même principe que les battles que vous faisiez en duo, sauf que là vous allez jouer contre tout le monde en même temps, entre guillemets. Et moi, j'aime pas Tetris et j'ai pas de Switch et le jeu est déjà dispo, donc je vais pas m'étendre. Vous pouvez aller le télécharger et essayer vous-même la bestiole. Si je m'en réfère à mon feed Twitter, les tests se résument à des choses du style c'est la drogue, j'arrive pas à sortir des chiottes, tu vois, des trucs comme ça. Donc a priori, ça a pas l'air mal, hein. Donc si vous aimez Tetris, allez-y, foncez. Je pense que la bande annonce explique assez bien, je vous la linkerai dans le billet qui accompagne le podcast, évidemment. La bande annonce annonce le problème. En tout cas, je vais pas acheter de Switch à ma mère, parce que vu qu'elle avait déjà défoncé le jeu sur une Game Boy, là ça risque d'être assez violent pour ces vieux jeux, tu vois. Je vais m'inquiéter après.
Ok, d'accord. D'autres nouvelles donc du côté de chez Nintendo?
Ouais, alors ils ont fait du neuf avec du vieux, parce que Nintendo, hein, on a l'habitude.
C'est ce que j'allais dire, c'est quand même pas surprenant de la part de Nintendo non plus.
Non, tu sais, sortir des nouvelles IP, il faut y aller, mais mollo. Donc ils ont Superio. Putain, Superio. Waouh. J'hésite à te demander de le couper au montage ou à le garder, je ne sais pas. Super Mario Maker 2. J'ai voulu aller beaucoup trop vite, tu vois.
Je vais le garder au montage, je crois. Ça me fera du taf en moins et ça me fera rire.
Tu m'étonnes. Super Mario Maker 2, c'est l'éditeur de niveau que tout le monde connaît, qui revient sur Switch dans une version encore améliorée. Les fans sont aux anges, les gros gars qui avaient déjà fait des trucs de taré sur les anciennes versions, sur l'ancienne version, sont en train de se dire que là cette fois c'est avec l'avènement de Internet, chez Nintendo, bienvenue en 2019, ça sera le moment de partager des niveaux tarés et que ça va se, ça va être assez violent. J'ai pas vu une réflexion négative sur le truc, donc enfin, à part les gens qui disent ah, une suite, machin, fait chier, mais sinon tout le monde est plutôt content. En revanche, les avis sont plutôt partagés sur Link's Awakening. Oui, remasterisé, c'est-à-dire le vieux Zelda remis au goût du jour. Pourquoi ça coince? Parce que le style graphique est assez chelou. C'est soit les gens trouvent ça super mignon, ils ont hâte d'y jouer avec leur gosse, soit ils sont en train de se dire qu'est-ce que c'est que cette merde. C'est quand même très moche. C'est voilà, je pas d'avis. C'est, je comprends que ça soit assez clivant. En même temps, c'est un remake d'un jeu SNES. Donc bon, pourquoi se prendre la tête si vous avez pas envie d'y jouer, vous y jouez pas. Celui-là, moi personnellement, ça m'attire pas plus que ça. Mais en tout cas, je suis assez content qu'ils refassent une version un petit peu modernisé, puisque ça va permettre aux plus jeunes de découvrir une histoire qui est quand même cool et qui c'est un jeu. Enfin, tu vois, si tu leur mets dans les mains aujourd'hui la version d'origine,
oui, ils vont souffrir un peu. Ouais.
Voilà, je suis pas persuadé qu'ils se barrent pas en courant en disant dis donc, papa, tes vieux trucs, tu vois, ou maman, whatever. Hein, je ne fais pas de genre rage, mais quand même, c'est vrai que la version de base, quand tu la relances, c'est quand même un peu aride. Voilà, ouais. Donc il y a un milliard d'autres trucs. Je vais vous linker un papier qui résume tout ça en anglais et en français, parce que dedans on trouve plein de choses du style Fire Emblem Treehouse qui a l'air après un an et demi de retard enfin prévu pour cet été, qui à mon avis va être une excellente chose parce que moi j'adore les Fire Emblem, donc je suis un petit peu biaisé sur l'histoire, mais là cette version elle cumule tout ce que j'aime. Il y a des versions en animé, il y a une histoire qui a l'air de bien se dérouler, et puis Nintendo a pas l'air de vouloir nous vendre trois cartouches différentes pour pouvoir faire l'histoire complète. Donc ça c'est plutôt cool, parce que quand on a vu le nom on s'est dit tiens, il y a trois dedans, faut acheter trois fois le jeu ou comment ça se passe, parce que la dernière fois il nous a fait le coup avec deux cartouches. Tu vois, donc, ouais. Tu sais, Nintendo, voilà. Non, pour l'instant, ça a l'air honnête, on va dire. Donc, on verra bien ce qui se passe. Et puis, pour les gros fans d'action, il y a une annonce un petit peu inattendue avec un truc qui s'appelle Astral Chain. Astral Chain, c'est un titre de chez Platinum Games, des gens qui font des jeux tout en point and click et douceur, hein, puisque c'est des tubes genre Beautiful Joe, Bayonetta, Resident Evil, Devil May Cry. Enfin, en fait, le mec qui est au dev, c'est Hideki Kamiya, qui, je sais, j'ai des amis qui adorent ce personnage, donc je ne jugerai pas, mais en gros ça va être un espèce de shoot assez violent dans une ville du futur où on est un flic avec des objets trop cool, rien que la moto, tu fais genre ah ouais je veux bien la piloter, et quand tu te bastonnes t'as un robot géant qui vient avec toi, enfin géant non, un robot quand même assez badass qui va aller défoncer de l'alien. Alors j'ai pas du tout regardé la gueule du scénar, hein, mais c'est du Platinum Games, donc c'est un prétexte pour aller appuyer frénétiquement sur les boutons de sa manette. Je pense que ça va être assez sympa. En tout cas, c'est assez joli. Pareil, je vous mettrai le trailer dans le billet qui accompagne le podcast parce que, en audio, c'est un petit peu limité.
Oui, c'est un peu difficile.
C'est un peu compliqué. Je vous raconte pas ma vie sur tous les autres trucs, genre Captain Toad qui va récupérer des extensions, etc. Je finirai juste sur Dragon Quest 11S, incroyable, qui arrive enfin sur Switch avec une version améliorée et surtout un mode que je trouve assez bien vu. C'est que les mecs, ils ont prévu de switcher à la volée entre les graphismes Unreal Engine 4, tu vois, les trucs un peu dessin animé sympa, et la gueule Super Nintendo. Je vous confirme que ça pique, hein. Super Nintendo, on avait oublié, mais c'est quand même pas très beau. Mais là, pour les nostalgiques, c'est génial, puisque tu peux faire les deux en même temps, et te dire, oh, tiens, ce jeu de 2019, j'y joue, comme en 1812. Donc c'est assez rigolo, et ça sortira à l'automne 2019, donc on a encore un petit peu de temps.
Ah oui.
Et si vous avez un PC, y a déjà la version, mais sans ces petits ajouts, qui est disponible sur Steam.
Voilà, donc on vous résumera tout ça dans les papiers qu'on linkera sur le billet qui accompagne ce podcast. On passe du côté des apps avec des nouvelles de notre browser chouchou, de la version 2.3 de Vivaldi.
Ouais, qui essaye, tant bien que mal, de faire des nouveautés, tu vois. C'est compliqué parce que, bon, alors, vous savez qu'on aime beaucoup Firefox en ce moment,
aussi,
mais c'est vrai que Vivaldi, dans les browsers à moteur Chromium, c'est un de nos préférés. Là, ils ont rajouté un truc qui s'appelle le TabStack. C'est la grosse nouveauté de la version 2.3, qui est activable ou pas, d'ailleurs, hein, pour les allergiques dans les options. Et c'est quoi le TabStack? C'est assez con, mais ça peut être assez pratique. C'est que quand vous êtes en train de naviguer sur un site, genre vous êtes sur sur un gros site avec plein d'articles, pas forcément Geekzone, je sais, mais un genre, bon, allez, on va dire un game culte, tu es en train de cliquer, d'ouvrir les derniers tests que t'as pas lus, ça va te faire, au lieu d'avoir des tables qui s'ouvrent séparément, ça va te faire des mini tables, tu sais, des petits traits au-dessus du tab actif actuel. Et d'accord. En fait, quand tu passes ta souris sur le tab principal, hein, vous êtes pas obligé d'aller farfouiller dans les micropixels au-dessus du tab, ça va vous afficher une fenêtre avec, enfin, un bandeau avec tous les tables qui sont ouvertes directement. Ça marche plutôt bien. Après, si vous êtes vraiment, enfin, moi je sais qu'en termes de mémoire musculaire et visuelle, je suis en train de regarder mes tables directement, et donc j'ai pas forcément le réflexe de passer sur l'onglet lui-même pour voir ce que j'ai ouvert et récupérer le truc qui va bien. Donc je suis pas certain que ça plaise à tout le monde, mais en tout cas c'est là, c'est dispo, c'est gratuit, ça se teste, et ils ont rajouté plein de choses pour pouvoir, par exemple, bah, ouvrir directement deux pages web dans Vivaldi directement. Tu vois, en écran splitté à l'intérieur du browser, tu peux les resizer à la volée, etc. Donc, bah, ça reste le browser le plus souple pour faire sa vie et s'organiser comme on veut. Donc, c'est pour le moment toujours le browser bah, assez intouchable pour tous les nerds. Notre Mr. P national ne jure que par lui. Il y a une raison.
Voilà, Vivaldi 2.3. Donc, on passe du côté de la culture et c'est moi qui reprends le micro pour vous parler dans un premier temps d'un truc dont on vous a déjà parlé dans les clairvoyants hier si vous avez écouté le podcast sur Marvel.
Si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire.
Voilà, il y a 4 nouvelles séries animées qui ont été annoncé par Marvel et Hulu. Donc Hulu, c'est ce service de streaming, hein, tu connais, qui pour le moment est une espèce de joint venture entre Disney, la Fox, NBC, je crois, et je sais plus quel autre partenaire encore.
Je vais juste préciser pour les gens qui connaissent pas que ça s'écrit Hulu. Hein,
oui, tout. Ça s'écrit Hulu. Moi, je dis Hulu. Je suis jamais sûr de la prononciation, mais on va partir sur Hulu.
Voilà.
Donc 4 nouvelles séries animées pour adultes. C'est important de le préciser parce que voilà, c'est assez rare qu'on ait des séries Marvel animées pour adultes, en tout cas c'est annoncé comme tel, avec tout d'abord Marvel's MODOK. MODOK, c'est ce fameux personnage, tu vois, cette espèce tête flottante dont Fox est fan.
J'ai toujours trouvé qu'il ressemblait à rien, ce truc.
Voilà, exactement. Scénarisé donc par Jordan Blum et Patton Oswalt, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Okay.
On aura aussi une série Marvel's Hitmonkey. Alors ils ont vraiment été chercher les trucs les plus improbables. Hein. Hitmonkey, donc on rappelle, c'est un singe assassin. C'est un tueur à gages singe.
Donc
voilà. Qui est originaire, c'est un Japanese snow monkey, donc un, je sais pas comment on dit en français, un singe du Japon, un singe d'hiver japonais, je sais pas trop.
C'est ce qu'on voit toujours en photo dans les fontaines, dans les sources d'eau chaude.
Ça doit être ça, ouais. Voilà. Et donc ça tourne autour du monde de l'underworld de Tokyo. C'est assez dark apparemment. Ça sera écrit donc par Josh Gordon et Will Speck. Il y aura également une série qui s'appelle Marvel's Tigra et Dazzler Show. Donc Dazzler, c'est cette mutante pop star. Hein, ouais, Tigra, donc c'est Tigra. Bon.
Elle était adaptée dans Strange, donc je connais bien.
Voilà, et ce sera écrit par Erika Rivinoja et Chelsea Handler. Chelsea Handler qui a son talk show, qui est une nana quand même assez source de polémiques souvent à la télévision américaine, pour ceux qui connaissent. Et enfin, on aura une 4e série, Howard the Duck, scénarisée par Dave Willis et Kevin Smith. Donc voilà,
c'est
l'annonce qui a surpris un petit peu tout le monde. Et c'est pas fini, parce qu'en fait, ils vont nous faire un plan à la Netflix, c'est-à-dire qu'en fait, ces 4 séries donc, vont évoluer chacune dans leur coin, et elles vont se rassembler à la fin pour une mini-série fourre-tout dans laquelle tout le monde va se rencontrer et lutter contre un adversaire commun qui s'appellera, tiens-toi bien, Marvel's The Offenders plutôt que The Defenders. Donc voilà, donc il y aura MODOK, Dazzler, Tigrite, Monkey, Howard the Duck dans une même série animée pour adultes. On n'a pas de date encore sur la disponibilité, ça a été annoncé il y a quelques jours, mais voilà, moi ça m'a fait beaucoup rire, The Offenders. Je ne sais pas qu'en penser. Il y a quand même des gens qui sont pas des manches à la scénarisation, hein, Patton Oswalt, Kevin Smith, Chelsea Handler, c'est pas non plus n'importe qui. Donc je pense que ça peut donner un truc plutôt sympa. Voilà. Donc,
moi je suis client. Ils ont l'air au taquet, ça me va très bien. Hein.
Et surtout que Marvel a toujours été un peu faiblard côté série animée. Il n'y a pas grand chose à sauver, très honnêtement, pour un fan de comics comme moi. Donc je suis très curieux de voir ça, de voir ce que ça va donner. On vous tiendra au courant évidemment dès qu'on aura des dates de sortie et de disponibilité. Je voulais reparler très très vite du projet Star Wars sur Disney+. Tu sais que donc Disney va lancer son service de streaming, on en parle quasiment chaque semaine, et donc ils avaient annoncé fin de l'année dernière, je crois, qu'ils étaient en train de développer en fait une mini-série autour de l'univers de Rogue One, donc préquel à la série Star Wars, donc tu sais, là où ils ont été volés les plans de l'étoile noire, etc.
Yes.
Qui se focaliserait donc sur le personnage de Cassian Andor, qui était interprété par Diego Luna dans le film. Et on a appris cette semaine donc qu'a priori on retrouverait également, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que moi je l'aimais beaucoup, le droïde K2SO interprété par notre ami Alan Tudyk, qui aurait donc confié à comicbook.com qu'il serait également de la partie.
Toujours pas d'infos, évidemment, puisqu'on sait toujours pas quand le service va être lancé et quand les séries vont être disponibles. Mais voilà, je voulais en parler parce que je sais qu'on a pas mal de fans de Star Wars sur Geekzone. Donc, bonne nouvelle, Rogue One, la série s'est confirmée, en tout cas, et on aura normalement Alan Tudyk au générique, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Moi, ça me fait toujours plaisir.
Moi, j'adore ce mec. Alan.
Voilà, exactement. Et puis, je trouve qu'il a été, il a pas eu une carrière facile quand même, malgré tout, et c'est un
peu
dommage.
Ah non, mais le mec, il a survécu, tu te demandes comment, en fait.
C'est ça.
C'est
parce
très
que
compliqué.
Post-Firefly, ça a été un peu compliqué, et puis c'est il a réussi à rebondir, et là, de nouveau, il revient sur le devant de la scène, et plutôt du côté de ce qu'on appelle le motion capture, mais c'est plutôt une bonne chose. Et puis, je voulais terminer cette partie culture, puisqu'on en parlait la semaine dernière, on parlait de Spotify, on parlait de la volonté de tous ces services de streaming de développer de plus en plus de contenu propre, et bien voilà, c'est parti, Amazon remet une couche avec 17 nouvelles séries promises pour tout bientôt.
Ah oui.
Et donc là, en gros, c'est ils nous font une Netflix aussi, hein. Donc Netflix avait lancé il y a quoi, 2 ans, 3 ans maintenant, toute une série de séries justement produites dans aux quatre coins du monde, donc en collaboration. Ça nous avait valu l'excellent Marseille en France, excellent avec des gros guillemets, hein. Voilà, on y reviendra pas.
Non, je sais pas de quoi tu parles. Voilà.
Et donc là, en gros, c'est 17 nouvelles séries originales, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Inde, au Japon et à Mexico. Juste un constat, je vais pas tout vous détailler, hein, mais en gros, les pitchs qu'ils nous ont vendus pour le moment, on a d'un côté une série qui s'appelle The Power, qui est une série en 10 épisodes et qui serait basée a priori sur le livre du même nom que je n'ai pas lu, et qui nous raconterait donc un monde imaginaire dans lequel les hommes ont peur des femmes. Donc ça a l'air encore une fois super. El Presidente, qui serait donc une série produite du côté espagnol, si je dis pas de bêtises, et qui serait une série d'investigation autour d'un scandale de corruption de la FIFA, mais qui serait vu de l'angle d'un petit club de football au Chili, avec l'histoire de son patron qui aurait réussi à faire sortir le club de son anonymat, mais avec des méthodes pas très très cool, et notamment des pots de vin de 150 millions de dollars. Il y a aussi une série qui s'appelle We Children of Bahnhof Zoo. Je m'excuse déjà pour la prononciation.
Tu vas l'écrire sur le site, hein, s'il te plaît.
Oui, je vais l'écrire. Donc, série allemande, hein, comme on peut s'en douter, et qui sera donc une revisite de l'histoire de Christiane F. Donc, c'était ce film un peu polémique qui était sorti dans les années 80, qui raconte l'histoire d'une bande de jeunes dans les années 70 dans le Berlin-Ouest, en fait. Des jeunes qui sont en proie à la prostitution, aux drogues, que des trucs joyeux, en fait. Et c'était un peu le constat que je voulais faire, c'est que tous les pitchs qui nous ont vendu là et que vous pourrez retrouver dans le papier de Variety que je linkerai sur le billet qui accompagne ce podcast, c'est quand même pas des trucs super fun. Donc voilà, moi je suis pour la production de contenu international, mais si on pouvait nous filer dans le lot quelques séries un peu funky, ça serait quand même cool
un
aussi.
Un peu de feel good, les mecs, s'il vous plaît.
Voilà, on en a bien besoin en ce moment, quoi. Ah oui, il y a encore une série dont je voulais parler, c'est une série indienne qui s'appelle The Last Tower, qui serait a priori un thriller surnaturel dans l'Himalaya, dans une station perdue au fin fond de l'Himalaya, donc je sais pas, une espèce de thing peut-être.
Ok. Je vais garder mon Star Trek de, voilà, de Netflix, hein. Okay.
Peut-être que dans les autres séries, là, il y en a que 4 ou 5, hein. Ils en ont annoncé 17. On n'a pas les détails sur les autres, mais on voudrait bien voir quelques comédies. D'autant plus que quand ils font de la comédie, Amazon Prime, ils sont plutôt pas mauvais. On pense notamment à de Marvelous Mrs. Maisel, qui, dans le genre feel good, se pose un peu là
The
quand même.
Tic.
The Tick aussi, ouais. Exact. Hein.
Ce qui est complètement taré si vous n'avez pas regardé ça.
C'est vrai, d'ailleurs, il ne devrait pas y avoir une nouvelle saison bientôt là.
Je ne sais plus. Je ne sais plus.
Je me rencarte, tiens. On tiendra
non,
au
mais tout fait, en ce moment, en tout cas, il se passe des trucs et les journées ne sont pas assez grandes parce que j'ai vu passer tout à l'heure le trailer de Love, Death plus Robots sur
oui,
Netflix.
Je
fais OK, d'accord, les mecs, très bien. Bah écoutez, je vais en prendre. Hein. Ça a l'air d'être de la bonne.
Donc voilà, tous les services de streaming en gros sont en train de rebalancer du nouveau contenu, que ce soit chez Hulu, chez Amazon. Tout le monde s'y remet. Donc on va encore avoir des séries à bouffer dans tous les sens et pour un bon moment, et c'est la fin de la page culture, donc on va passer du côté de la tech avec des nouvelles d'une carte graphique.
Mais oui, ça nous change un peu, parce que tu vois, ça s'est un peu ralenti ces derniers temps, donc...
C'est pas toi qui en cherchais une il n'y a pas longtemps.
Écoute, moi tu sais, je ne sais, franchement, les problèmes de carte graphique, ça ne me touche pas, ça ne tombe jamais en panne.
Pas du tout de quoi tu parles.
Je suis bien content d'avoir récupéré cette 2080, et justement, ça tombe bien, puisqu'il est l'heure de parler de la AMD Radeon 7, qui est 7 nanomètres, hein, comme les choses sont bien faites, c'est beau le marketing quand même, quand c'est malin, qui est la nouvelle carte donc de chez AMD, qui est justement censée venir concurrencer les GeForce RTX 2080 de Nvidia. Je vous linkerai des papiers de 42 km en anglais pour vous faire travailler un petit peu sur le billet qui accompagne le podcast, parce que il y a tous les graphiques, tous les tableaux, etc. Et je vais juste vous faire un petit résumé, un condensé très rapide de la bestiole, puisque je vous cache pas que je m'attendais à une bouse fumante. Bon, parce que bah en ce moment AMD ils sont un peu à la rue en niveau carte graphique en termes de tech. Et ben c'est pas nul. Incroyablement, on pensait que ça allait être vraiment pourri. Je le dis poliment, hein, mais c'est personne n'y croyait. Et en fait non, même si pour l'instant AMD a plutôt du mal à les fabriquer, puisque je crois que la première livraison, je crois qu'il y avait 12 cartes en France. Je déconne pas, hein, c'est pas une figure de style. Hein. Il y avait vraiment 12 cartes en France pour les premières livraisons. C'était juste ridicule. Mais donc la bestiole a surpris un peu tout le monde au niveau des tests. Alors elle ne gagne pas, mais elle est vraiment à la corde avec une 2080, ce qui est quand même plutôt cool. Alors attention, évidemment, la 2080, oui, elle a ses trucs de ray tracing en temps réel, tout ça, ça n'existe pas sur la version AMD. Hein. Mais on est vraiment sur une carte qui essaye de justifier son prix, qui va être officiellement de 700$ aux États-Unis. Donc j'imagine que ça va être largement dans les 700€ chez nous. Ceux qui espéraient qu'une garde des prix de ce côté-là peuvent se rendormir, c'est pas encore pour tout de suite.
C'est ce que j'allais dire, ouais. J'allais justement poser la question, donc je vais retourner m'endormir.
C'est ça, non, et le problème, c'est que AMD, un, ils ont besoin d'argent, deux, le marché est super tendu, les gens n'arrivent pas à produire, il y a aussi des problèmes de production chez Nvidia, etc. Donc en termes de nombre de cartes, il n'y a pas de raison de fracasser les prix pour le moment, donc ils vont marger tout ce qu'ils peuvent. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a un petit peu des options. Alors, c'est pas encore extraordinaire, pourquoi je dis ça ? Parce que déjà, donc en termes de performance, vous le verrez sur les graphes que je vais linker, c'est pas magique, mais bon, la carte est là, elle n'est pas ridicule, on pensait qu'elle allait se faire défoncer, c'est pas le cas, mais en tout cas en termes de bruit et chaleur, c'est quand même, ça reste un petit chauffage d'appoint qui consomme plus que la carte de Nvidia, donc c'est aussi à prendre en compte, puisque mine de rien, votre PC il coûte de l'argent quand il est branché sur le courant. C'est des choses qu'il va falloir améliorer, on attendait un petit peu mieux de ça, puisque donc, je le rappelle, la gravure de la puce d'AMD est en 7 nanomètres, ce qui est le truc le plus fin qu'on sache faire actuellement, il y a très peu de processeurs dans cette finesse de gravure, la vraie nouveauté entre guillemets. Maintenant on attend de voir ce que va donner le 7 nanomètres avec la prochaine architecture de chez AMD qui va s'appeler Navi, va vraiment apporter des nouveautés et on l'espère un boost de puissance qui va remettre AMD dans le train de la performance, la vraie, et où il y aura des vrais bastons entre jeux, tu vois, comme à l'époque où il y avait des jeux qui étaient vraiment vraiment beaucoup plus rapides sur une carte AMD parce que optimisée, etc., mais aussi parce que la tech était là pour faire son boulot. Donc franchement, c'est à l'heure du choix un petit peu un problème de chapelle, tu vois, de religion. Il y a des gens qui veulent que du vert, il y a des gens qui veulent que du rouge dans leur PC. Donc je vous laisse choisir, mais en tout cas, si vous jouez en 1440p, la Radeon 7, elle fait le taf. C'est pas la claque que certains fans attendaient, hein, mais en tout cas, nous, en termes de performance, vraiment, 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 on est surpris. Maintenant, vous avez remarqué que je parlais de la RTX 2080. Si on parle de la RTX 2080 Ti, là, il n'y a pas photo. Nvidia reste king of the pop, toujours au top en termes de performance, si vous avez les moyens, évidemment. Mais bon, quand on parle de cartes à 700€, c'est un investissement, mais dans les deux cas, vous allez y laisser un petit rein. Donc, je vous conseille de le choisir de manière
réfléchie,
ouais, parce que. Et puis, si vous prenez de l'AMD et que ça marche pas derrière, venez pas nous dire, mais Kaf, il avait dit que. Non, je vous avais dit que ça, c'était moins nul. Voilà, c'est le début de ce que je disais, j'aurais pu m'arrêter là. Mais franchement, je voulais en parler parce que je m'attendais tellement à un truc qui allait ramer tu vois, genre un petit peu, t'as un peu honte de la présenter. Mmh. Et je me suis dit, c'est pour ça qu'il y en a 12 en France, tu vois, ils veulent pas trop que les gens les voient. Mais non. En fait, les tests sont vraiment, vraiment, vraiment meilleurs que prévu. Donc voilà, ceux qui craquent et qui en achètent, venez sur le forum, venez nous parler, venez nous dire ce que ça fait. Moi, j'ai surtout peur que ça fasse quand même pas mal de bruit quand on voit la carte de référence avec ses 3 ventilos et la taille qui est faite. Mais je vous laisse vous dépioter tout ça après le podcast, puisque vous allez voir le lien de Anantech. Je crois qu'il y a 54 pages. J'exagère. Mais quand tu crois que tu arrives à la conclusion, en fait, il reste bien 20 minutes de lecture, quoi.
Et c'est la fin de ce 70e épisode de Torréfaction. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, bon week-end, bon Apex Legends. Je vais peut-être enfin essayer de m'y mettre ce week-end si je trouve un peu le temps de le faire.
Je ne sais pas de quoi tu parles. yoga, sport, coucher tôt, tu vois, c'est ma vie maintenant, ok.
Bon week-end de yoga et de méditation alors. Ciao.
Ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorycrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers.
Hey, how's your girl, man?
She left me.
Oh.
Yeah, my mom died too. And my dad got deported. But I got the van.
It's nice.
Yeah, right?